Merci Martha. Okay. Dernière présentation pour cet après-midi, on vole jusqu'à Bruxelles avec les collègues Déborah Miou et Alexia Serré qui vont nous parler d'une recherche, de recherche-action participative et d'accès à l'alimentation durable.
Bonjour, donc on peut commencer par se présenter, donc Alexia et Déborah, on travaille à la Fédération des services sociaux à Bruxelles, et donc c'est une fédération qui, comme son nom l'indique, fédère des services sociaux associatifs à Bruxelles et en Wallonie, et à côté de ça, elle a développé aussi certains projets, notamment un projet concertation aide alimentaire, et c'est aussi à ce titre que nous sommes là. Alors, on va, dans le cadre de cette présentation, aborder deux projets, qui, chacun à leur manière, en fait, cherchent à introduire du changement dans les pratiques autour de... qui cherchent à favoriser l'accès à l'alimentation. Le premier, c'est justement cette fameuse concertation aide alimentaire qui existe et qui est force de proposition pour tout un tas de choses. Déborah va en parler. Et la seconde, c'est donc une recherche action participative qui est en cours actuellement. Qui s'appelle Sol en prime et qui cherche des alternatives à l'aide alimentaire telle qu'elle se pratique le plus communément aujourd'hui. Voilà, donc je laisse la parole à Déborah pour le premier point sur la concertation aide alimentaire.
Merci Alexia. Donc voilà, le contexte belge de l'aide alimentaire et bruxellois plus spécifiquement, en fait il est assez similaire à ce qu'on vient d'entendre ici, en tout cas dans les constats. Donc Bruxelles, c'est évidemment une capitale plus importante, enfin importante, et donc une ville plus importante que Mulhouse en termes de population et précarité, ça je ne sais pas, mais donc en fait on évalue à 55 000 personnes le nombre d'usagers de l'aide alimentaire à Bruxelles. Mais pour le reste, dans ce que j'entends, les modèles, les modalités de l'aide alimentaire sont similaires à celles qu'on retrouve ici avec des épiceries sociales, des restaurants sociaux, des services de distribution de colis alimentaires. Et les questions qui sont portées par les acteurs de l'aide alimentaire et par les bénéficiaires sont toutes les questions qu'on a entendues ici, ce qui est assez interpellant, parce que tant dans les CNET que dans l'intervention de Manuela, de Martha, de Cyril, de tout le monde, en fait, on permet de voir en fait, qu'il y a une universalité des expériences vécues tant par les travailleurs et les bénévoles du secteur que par les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Donc, avec nous, avec ce contexte-là et tous ces questionnements qui font notre quotidien, on se demande comment introduire du changement. Et une des manières qu'on a trouvées, c'est il y a une dizaine d'années, dans le cadre d'une recherche-action qui visait à identifier les contours du secteur de l'aide alimentaire à Bruxelles, donc identifier les acteurs, les modalités d'action, on a mis en place la concertation aide alimentaire, qui est donc un organisme qui vise à rassembler, c'est pas un organisme en fait, c'est une concertation plutôt informelle qui n'a pas de statut juridique, mais qui est un lieu où les acteurs qui pratiquent l'aide alimentaire se rassemblent. Et donc ces acteurs, ce sont tous les services qui pratiquent l'aide alimentaire, les colis, les épiceries sociales, les restaurants sociaux. Ce sont aussi des services publics, comme des CPAS chez nous, Centre public d'action sociale, correspondant au CCAS, je pense, ici. Ce sont des associations, des ASBL, des mouvements plus citoyens, plus spontanés, qui ne sont pas nécessairement... qui n'ont pas de statut nécessairement en tant qu'ASBL. Sur le plan philosophique aussi, on a des organismes très différents, avec des organisations caritatives, d'autres qui sont... totalement non confessionnel ou dans une action plus technique. Sur le plan de la professionnalité aussi, il y a des différences avec des organismes totalement bénévoles et puis d'autres qui sont totalement professionnels. Et donc, au total, à Bruxelles, on estime à 100 organisations plus ou moins le nombre d'organismes actifs dans l'aide alimentaire. Il y en a plus ou moins une quarantaine qui, sur une base régulière, participent aux travaux de la concertation aide alimentaire. Et donc, ce que ça implique, c'est que ces acteurs se rencontrent régulièrement depuis maintenant une dizaine d'années. Ils participent à des groupes de travail, à des projets. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus pendant des heures parce que j'ai très envie de laisser la parole à Alexia. Mais ce que ça apporte, le fait d'avoir mis en place cette concertation aide alimentaire, il y a des choses qui sont difficiles, mais il y a des choses assez positives et je n'en citerai ici que trois. La première, c'est que ça permet d'équiper les acteurs de terrain pour réaliser leur mission dans les meilleures conditions possibles. Et ça, on le fait à travers des projets, notamment des projets d'approvisionnement du secteur de l'aide alimentaire pour faciliter cet approvisionnement, parce qu'il y a là un enjeu très, très important qui est identifié en permanence par les acteurs. Ce sont des formations, des projets de recherche qui nous permettent, par exemple, ici, on a ramené une petite brochure. C'est une recherche qui a permis d'interroger les bénéficiaires de l'aide alimentaire sur leur vécu dans le secteur. Ça permet aux personnes de sortir le nez du guidon, de prendre un peu de recul sur leur pratique. Donc ici, par exemple, depuis quelques mois, on accompagne une réflexion sur l'avenir du droit à l'alimentation en Belgique, à Bruxelles. Alors on se rend compte, en accompagnant cette réflexion avec les acteurs, que c'est extrêmement difficile, en fait, de se projeter dans autre chose que dans ce qui existe, c'est-à-dire dans l'aide alimentaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais ce travail a permis de faire émerger comme priorité pour les acteurs et pour les organismes l'envie de travailler sur les bénéficiaires. Donc ça veut dire de mieux identifier les bénéficiaires et par exemple de voir si on couvre l'ensemble des publics avec cette action d'aide alimentaire. Et je pense que là, il y a une brèche potentielle dans le fait de travailler avec les organismes sur les bénéficiaires, parce que voilà, on peut imaginer d'aller faire de la recherche, de mettre en place des projets communautaires, ça ouvre des tas de portes. Et pour moi, ça fait lien avec la présentation de Fabio sur les municipalités, dans le sens où le fait de rassembler ces acteurs, après, ça permet d'être force de proposition et éventuellement force de changement à terme et dans une perspective peut-être un peu plus longue. Voilà.
Alors, justement, suite à la naissance de cette concertation aide alimentaire, les projets de recherche ont été poursuivis sur cette thématique-là. Et le dernier projet, celui qui est en cours, c'est un projet de recherche qui s'appelle donc Solidarité en primeur. C'est une recherche à action participative, donc elle a pour spécificité d'être menée avec les personnes concernées. Elle a pour vocation à expérimenter des nouveaux dispositifs avec les personnes à partir des besoins qu'elles ont identifiés comme étant les leurs. Alors, il y a une hypothèse aussi derrière cette recherche, c'est que, en fait, on gagnerait quand même à tenter des rapprochements entre aide alimentaire et alimentation durable, dans l'idée d'accéder à une alimentation de qualité, que finalement, il y a le monde de l'alimentation durable qui développe des dispositifs, et puis le monde de l'aide alimentaire qui repose sur d'autres logiques, et que tout ça aurait peut-être intérêt à essayer de se croiser. Alors, dans le cadre de cette recherche, on a mené toute une réflexion, un diagnostic qu'on a fait là aussi avec les intervenants, avec des chercheurs, avec des personnes concernées. Et donc, ça a donné lieu à cette publication il y a une cinquantaine, je crois, d'exemplaires qui sont disponibles. Et donc, je ne vais pas en parler maintenant, mais vous pouvez aller vous servir. Ils sont là pour vous si ça vous intéresse. Ce que je voulais faire maintenant, c'est plutôt parler concrètement des dispositifs, de ce qui se met en place au sein des groupes qui participent au projet Solimprime. Alors, une première initiative qui est en cours, c'est un groupe d'achat en commun. On en a entendu parler déjà un petit peu. C'est une initiative qui existe aussi à Bruxelles. Alors, il y a un groupe d'achat en commun, un GAC, qui est né en fait dans une association d'aide alimentaire. Il a été lancé en 2014. Il rassemble une quarantaine de familles à faible budget, avec une diversité culturelle dedans, mais en tout cas, ils ont pour point commun d'avoir un petit budget. Leur motivation à ce moment-là est d'ailleurs toujours essentiellement financière. L'idée, c'est bien d'acquérir des produits. Et au départ, c'était surtout des produits d'hygiène à un prix plus intéressant. Alors, fin 2016, il y a le départ du coordinateur de ce groupe. Et donc, l'association qui encadre ce groupe décide de ne plus l'accompagner. Et donc, dans le cadre du projet Solimprime, on a réussi à mettre en place, à relancer ce groupe, puisqu'on a trouvé quelqu'un et puis un petit financement pour que l'accompagnement de ce groupe puisse continuer. Et alors, une des questions qu'on se pose, puisqu'on se dit, est-ce qu'on peut rapprocher aide alimentaire et alimentation durable, c'est ce groupe d'achat en commun, est-ce qu'on pourrait le considérer ou pas comme finalement quelque chose qui ressemble à un GASAP social ? Voilà, les GASAP, ce sont les groupes, en Belgique, on appelle ça GASAP, les groupes d'achat solidaire de l'agriculture paysanne. Alors, ce qu'on constate, c'est quand même que les objectifs du groupe d'achat en commun et les objectifs d'un GASAP sont assez différents. Un GASAP, c'est un groupement de consommateurs qui, dans sa pratique de consommation, veut bien soutenir l'agriculture paysanne, c'est-à-dire en termes de faire attention à la qualité, à l'emploi, faire attention au respect de l'environnement et de la nature, etc. Le groupe d'achat en commun, concrètement, sa priorité, c'est quand même, les membres de ce groupe, leur priorité, c'est quand même d'accéder à des denrées, de pouvoir accéder à des produits, à des tarifs plus intéressants. Alors par contre, ce qu'on note quand même, c'est qu'on est avec ce groupe d'achat en commun dans une démarche vraiment participative, vraiment potentiellement émancipatrice, notamment parce que l'accompagnement qui est proposé maintenant, il tend vers la question de l'autonomie de ce groupe. Donc l'idée, c'est que les personnes qui sont membres de ce groupe-là, elles puissent le plus possible orienter l'activité du groupe en fonction de ses intérêts à elles et puis prendre en charge l'organisation du groupe par elles-mêmes. Donc, ce qui est visé, par contre, avec ce groupe d'achat en commun, c'est quand même plutôt un accès durable à l'alimentation pour les personnes. C'est-à-dire que dans le temps, elles puissent durablement accéder à de l'alimentation, puisque bien, même si on avait commencé par des produits d'hygiène, ce groupe a ensuite fait appel à un grossiste pour accéder à des fruits et des légumes, etc. Alors, lors de la dernière réunion de ce groupe, il y a un peu moins d'un mois, où j'étais présente, il y a eu un petit débat assez intéressant. Il y a un membre du groupe qui a dit « Mais finalement, est-ce qu'on connaît la provenance des fruits et légumes qu'on consomme ?» Alors les autres membres du groupe ont dit « Bah comment ça ?» Puis il a dit « Bah je sais pas, est-ce que c'est bio ? Est-ce qu'il y a des pesticides dedans ? Est-ce qu'on sait tout ça ? Est-ce qu'on a déjà posé la question ?» Et le groupe a du coup eu un petit moment de débat autour de cette question-là. Alors ce qu'il en est ressorti, c'est que on ne connaissait pas la provenance exacte des fruits et des légumes qui allaient être commandés via le grossiste qui fournissait le groupe. Il est ressorti aussi que en fait, plusieurs membres du groupe ne savaient pas si en fait, c'était un grossiste qui achetait des choses et puis les proposait au groupe, ou si c'était un producteur qui avait sa propre ferme et qui cultivait lui-même ses aliments. Et puis donc, il disait que, en tout cas, quelqu'un après a un peu voulu couper le débat en disant « Mais finalement, la question de la qualité, elle est là, il faut arrêter de la poser. On connaît ce grossiste, on a travaillé avec depuis un moment. » Le goût est là, les produits sont beaux et ils pourrissent pas, donc on a de la qualité. Et donc finalement, et puis de toute façon, vouloir avoir du bio, ce serait trop cher. Alors moi, j'ai posé aussi la question, puisque il y a l'idée de s'inspirer dans ce projet, il faut qu'on aille voir aussi d'autres initiatives, voir si on pourrait pas du coup s'en inspirer pour modifier un peu ce qu'on fait, etc. Donc j'aurais dit, est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir un fameux Gazap pour savoir s'il n'y a pas des choses à prendre dans leur mode de fonctionnement ou des choses comme ça. Et là, on m'a répondu, mais non, mais de toute façon, ce n'est pas la peine, puisque c'est bio, donc ce serait trop cher. Alors, jusque-là, donc, on peut se dire, du coup, le lien alimentation durable, aide alimentaire, ce n'est pas si évident. Et en même temps, à la fin de cette discussion, il y a une dame qui a amené cette idée-là, enfin, qui a amené l'idée qu'il fallait quand même respecter la question qui avait été posée par l'autre membre, que c'était une question qu'on s'était certes jamais posée jusque-là, depuis 2014, la création du groupe, mais elle a noté, le groupe évolue, et on aura peut-être quand même envie de se la poser un jour, cette question-là, donc c'est bien de la garder en tête, et on pourrait, à un moment donné, approfondir cette question-là. Voilà, ça c'est le premier exemple que je voulais développer, je vois que j'ai très peu de temps, donc je vais te citer le deuxième, mais vraiment juste en passant. Le second exemple, c'est donc dans un autre contexte, un de nos partenaires, qui est un service public, un CPAS, donc un centre public d'action sociale, qui fait à peu près la même chose que les CCAS ici en France, dans lequel Solamprim finalement a permis la création d'un comité de citoyens. En fait, les personnes qui encadrent, nos partenaires, voilà, avaient décidé de donner carte blanche aux personnes qui avaient participé au diagnostic et à cette publication sur l'identification des freins qui empêchent d'accéder à la nourriture de son choix, etc. En leur donnant carte blanche, ces personnes ont décidé de devenir un comité de citoyens. Et puis, bien qu'elles sachent que Solamprim, c'était un projet qui parlait d'alimentation, elles ont dit, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est un réseau d'échange entre nous, un réseau de soutien, un peu comme peuvent le faire des SEL, donc des systèmes d'échange locaux. Donc elles savaient que ça existait. Et puis là, la personne qui accompagne ce groupe a dit, ah, mais un SEL, il y en a un déjà, ici sur le territoire. Invitons-les et voyons si on ne peut pas plutôt les rejoindre. Et donc il y a eu un échange effectivement qui a eu lieu, mais ces personnes ont décidé après cela qu'elles ne se reconnaissaient pas vraiment dans ce système d'échange local avec d'autres personnes qui étaient prêtes à les accueillir et qu'elles préféraient créer leur réseau d'échange à elles au sein du CPAS. Il me reste une minute, c'est bien, j'arrive sur ma... je m'approche de la conclusion. Et donc ça c'est intéressant parce que voilà, ça montre que Salon Prime, c'est un projet qui est censé parler d'alimentation. Et puis, on rassemble des groupes. Un nouveau groupe se crée. Avec nous, pour nous, l'idée, qu'on va forcément parler d'alimentation. Puis Salon Prime, ça parle d'alimentation durable. Donc on se dit, si on parle d'alimentation et qu'on se pose la question de la qualité, on sera déjà à peu près dans le créneau qui est le nôtre. Et en fait, ce qui apparaît plutôt, c'est que puisque ce projet a vocation à n'exister que s'il est fait en co-création avec les personnes concernées, que si on est vraiment sur une démarche participative, non pas top-down avec des gens d'en haut qui décident de ce qui est bien pour les gens d'en bas, mais bien sur une logique bottom-up où on part du besoin on voit comment mettre en place des choses et chercher les solutions pour mettre en place des choses, on peut aussi parfois s'écarter du sujet qui est traité. Alors, est-ce que c'est un problème ? Nous, on considère que, a priori, non, il n'y a pas de raison que ça en soit un. Finalement, l'enjeu, c'est quand même de faire avec les personnes, de respecter leurs besoins, leur conception de leurs besoins, leur conception de la meilleure réponse à leurs besoins. Et l'exemple du GAC que j'ai cité tout à l'heure et cette petite phrase de cette dame, « Oui, mais attendez, le groupe évolue », montre que même si la question de l'alimentation... on peut s'en écarter un temps. À partir du moment où les conditions de participation sont réunies pour permettre aux gens d'être vraiment dans leur propre projet, il y a quand même des chances à un moment donné qu'elles se soucient de leur bien-être au sens des dimensions qu'amenait Christopher tout à l'heure, et qu'elles viennent aussi à traiter cette question-là, mais effectivement, a priori sans doute, parmi d'autres. L'alimentation, en fait, elle apparaît un peu comme une entrée à basse œil. Une entrée quand même où les professionnels disent avec l'alimentation, finalement, au moins on arrive à se rassembler, on arrive à être inclusif, à intéresser aussi plein de personnes qui auraient peut-être plus de difficultés à se mobiliser sur d'autres sujets qui ont l'air complexes. L'alimentation, ça peut être aussi partager un repas et partir de là, et donc ça semble être vraiment une entrée pertinente. Et même si après on s'en écarte, de toute façon il y a de grandes chances qu'on y revienne aussi. Là où je voulais en venir, c'est que c'est une entrée basse œil, l'alimentation. Dès qu'on réintroduit la notion d'alimentation durable, on se rend compte que parfois ça complexifie un petit peu les choses et que les gens se sentent peut-être moins directement concernés par ces questions-là. On s'écarte peut-être un petit peu de leurs besoins. Rapprocher l'aide alimentaire et l'alimentation durable, ça semble être une brèche vraiment pertinente à exploiter. Elle n'est peut-être pas aussi large que ce qu'on espérait, nous, en tout cas, en termes d'hypothèse au début de ce projet de recherche, mais elle est bien là et elle mérite de continuer à être creusée. Voilà. Je vous remercie.
Merci.